10h33, c'est pas toujours facile d'aborder la sexualité avec les ados, les enfants. Parfois, évidemment, il y a de la gêne. T'sais. On peut dire, ben moi, parler de tel acte sexuel, je suis moins à l'aise nécessairement. Puis surtout avec un jeune aussi, parce qu'il y a des mots qu'on dit, hey, je peux peut-être pas dire ça de telle façon. Ou si je dis ça comme ça, peut-être ça va être pris. Et là, il vient peut-être même un cycle où, entre parents et ados, il y a moins de communication aussi. On sait c'est quoi avec les hormones, les adolescents, ils veulent moins peut-être se confier à papa, maman. J'ai eu ma première relation sexuelle. Maman, voici comment ça s'est passé. Ça ira pas comme ça au souper de famille. Généralement, ça se peut que ça arrive comme chez vous. Ça. D'ailleurs, il y a un livre qui vient tout juste d'apparaître qui s'appelle « Tout nu », qui est magnifique, qui est vraiment bien fait. C'est le dictionnaire bienveillant de la sexualité de Myriam Dagouzan-Bernier, étudiante en sexologie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Myriam. C'est vrai que les ados n'arrivent pas après l'école ou... autour du souper, papa, maman, voici, j'ai eu ma première relation sexuelle.
je dirais que c'est plutôt rare en général, mais il y a des familles dans lesquelles ça arrive parce qu'il y a des parents super ouverts maintenant qui s'informent, puis où il est possible d'avoir ces discussions-là. J'en ai déjà connu des familles où c'était comme ça. Mais oui, de façon générale, la sexualité, je dirais, généralement au Québec, c'est assez tabou encore.
Mais qu'est-ce qui fait que c'est encore tabou? Parce qu'on est en 2019, il y a les réseaux sociaux, le web, tu sais, ça a bien du mauvais, mais quand même, il y a plusieurs YouTubeurs qui en parlent ouvertement aussi. On a même à la télévision, il y a plus de scènes également. On voit plus d'homosexuels. On parle de trans, de LGBT.
Exact, exact. Bien, je pense que c'est encore tabou parce que ça l'a longtemps été. Je veux dire, l'influence de la religion est vraiment pas très loin. D'ailleurs, il y a quelques semaines, il y a des associations de parents d'écoles chrétiennes qui ont fait une montée contre le programme d'éducation à la sexualité. C'était pas réfuté complètement le programme au complet, mais il y a des gens qui ont peur de ça, qui ont peur d'aborder ce sujet-là. Je ne veux pas aller dans la politique, mais il y a Maxime Bernier en ce moment qui a peur. Donc, si des gens influents comme ça ont peur d'en parler, ça lance un drôle de message, en fait. Fait qu'on est en 2019, mais il y a encore énormément de tabous autour de ça, là.
Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée, en fait, d'écrire le dictionnaire tout nu?
En fait, moi, je lis énormément. Puis en étant étudiante en sexologie et aussi journaliste indépendante sur le sujet depuis plusieurs années, je travaillais entre autres chez Chatelaine, des choses comme ça, je trouvais qu'il y avait un manque dans la littérature au Québec par rapport à la sexualité. Il y a quelques livres qui étaient là, mais moi, il a fallu que je me fasse venir beaucoup de livres de la France, des États-Unis, et je me rendais compte tranquillement que les livres les plus importants qui avaient été écrits sur la sexualité dataient de plusieurs années. Il y avait des concepts qui n'étaient pas établis, pas élaborés dans ces livres-là. Donc, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un manque puis qu'il y avait une urgence de combler cette partie de la littérature sur la sexualité pour les jeunes et les parents aussi.
Oui, parce que c'est un livre autant pour les parents que pour les jeunes. C'est-à-dire que moi, je lisais ça hier, puis je me dis ah ouais, tel... Puis, écoute, je peux vous dire qu'il y a bien des mots que je connaissais pas pantoute. Là, je me suis dit, moi, qui est niaiseuse?
Non, pas du tout. Tout le monde en découvre à chaque fois.
Et justement, les ados, quand vous les rencontrez, ils s'intéressent à quoi? Parce qu'ils sont curieux, ils veulent connaître.
Ouais.
Mais c'est quoi, justement, en ce moment, là, les premiers sujets?
Ben, je pense que de façon générale, cette génération-là est dans les premières à s'associer beaucoup plus à être une étiquette comme queer, par exemple, non binaire. Ils comprennent vraiment bien ces concepts-là. Ils ont quand même une très bonne connaissance générale du sigle, entre autres LGBTQ, bon, lesbienne, gay, trans, etc., etc. Il y a une ouverture qui est là et une curiosité. Et juste un mot, par exemple, comme le polyamour, c'est quelque chose qu'ils vont beaucoup plus connaître. Ils vont être capables d'avoir des relations plus ouvertes. Plus éclaté, en fait, qui ne ressemble pas nécessairement au mode binaire qu'on connaît, c'est-à-dire une seule personne, on se marie, des enfants et tout ça, ça éclate ça complètement. Là.
Donc, eux, ils sont plus portés à pas une relation monogame qu'on a connue, mais vraiment à être capable d'aimer autant deux hommes à la fois, d'avoir deux relations en même temps. Le polyamour, c'est un peu ça.
Je résume vite. Là. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, on a un couple, on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Je pense que c'est pas tous les ados qui sont comme ça. Ça serait vraiment bête de faire une généralisation de ma part comme ça. Mais je pense que c'est des sujets qui sont abordés par eux et elles de façon plus ouverte avec une moins grande peur, je crois. En tout cas, de ce que je vois, de ce que j'ai entendu, il y a une moins grande crainte. Puis c'est vraiment plus une curiosité que de dire seulement à la sexualité, ça fait peur. On peut avoir une grossesse non désirée. Il y a des ITSS. Ça va au-delà de ça.
Ça parle beaucoup d'identité. Ça durera mes cours à moi dans les années 80.
Oui, c'est ça, exactement. Mais en même temps, il y a une montée des ITSS. Il ne faut pas comme, se le cacher non plus. Mais je pense qu'on peut parler de ça de façon intelligente sans faire ne faites pas de sexualité. Je veux dire, ça va être pire. Ils vont le faire encore plus. Fait que, je veux dire, tant qu'à faire, parlons-en bien.
Est-ce qu'ils sont peut-être moins dans le jugement qu'on a pu l'être?
Ben, je pense qu'on a tout le temps tendance à dire la génération d'après ou d'avant, c'est mieux ou c'est pire, ouais. Mais en même temps, je pense que ça dépend de chaque personne, encore une fois. Si on parle, exemple, de la première fois, puis de l'âge, l'âge n'a pas beaucoup changé dans les 25 dernières années. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça, mais peut-être que oui, il y a moins de jugement parce que, premièrement, il y a les médias sociaux pour voir toutes sortes d'autres réalités qui, avant, moi, personnellement, je suis née en 80, j'avais pas accès à toutes ces figures-là, ces personnes-là qui me parlaient de leur réalité. Donc, ils ont accès à ça. C'est quand même merveilleux. Là. Il y a une espèce de bassin dans lequel fouiller. C'est sûr que ça vient avec une certaine curiosité. Il y en a peut-être qui ne sont pas curieux. Il y a toutes sortes d'êtres humains, mais la plupart, je pense, en général, sont curieux et curieuses de savoir comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'identité, c'est quoi la sexualité, etc., etc.
Mais pour certains ados, ça peut pas être encore plus mélangeant, confrontant aussi de voir toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'on la recherche d'identité aussi, qui est tellement importante quand on est ado.
Tout à fait. Ouais, il y en a certainement qui sont un peu perdus là-dedans, mais en même temps, c'est aussi le propre de l'adolescence d'être un peu submergé par plein d'émotions, plein d'hormones et tout. Donc oui, c'est un moment crucial dans la vie, mais je pense que ces informations-là qui viennent d'un peu partout, ces éclatements de la binarité et des genres et tout ça, leur laissent un plus grand terrain de jeu. Mais oui, c'est sûr qu'il va certainement y en avoir quelques-uns ou quelques-unes qui sont comme « c'est compliqué ».
Et là, je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent et qui se disent « mais à quel âge je peux commencer à parler de sexualité, d'éducation à la sexualité à mon jeune ?» Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, je dis peut-être dans mon temps, j'ai l'air d'avoir 95 ans, là. Non, mais on commençait plus, je vous dirais, en première secondaire. Mm-hmm. Est-ce que c'est le bon moment pour un parent de commencer à en parler ou ça doit vraiment être fait tout jeune, là, encore plus jeune que ça?
Bien, je pense que ça devrait commencer plus jeune, mais ça dépend quoi. Quand ils sont tout petits, par exemple, ne serait-ce que commencer à nommer les parties du corps comme il faut, au lieu de dire, mettons, un zizi, mais dire un pénis. Donner les vrais noms, ça, c'est vraiment très important. Parler, entre autres, de masturbation quand ils sont petits. Il y a un certain âge où ils sont tout le temps en train de jouer dans ce coin-là et tout. Ça gêne les parents, mais en même temps, il n'y a pas un aspect sexuel qui vient avec ça pour eux. Pour elle, ça leur fait juste du bien. C'est juste une façon de se relaxer, de se détendre. Mais nous, on associe notre pensée d'adulte à « ouh, c'est sale, on n'aime pas ça ». Mais c'est important, par exemple, plus jeune, de leur dire « ben tu peux faire ça dans ta chambre ». Tu sais, peut-être pas devant le souper de famille avec tout le monde, mais il y en a que ça arrive des fois. Puis ils savent pas, c'est normal, ils explorent leur corps. Donc, juste à être ouvert et ouverte à ces possibilités-là, mais en parler le plus tôt possible. Mais évidemment, à 2, 3, 4 ans, on parlera pas des mêmes sujets qu'à l'adolescence. Il faut voir où l'enfant est rendu aussi, je pense.
Puis de voir l'enfant où il est rendu, c'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui va aborder? Est-ce qu'on attend qu'il nous pose des questions ou on peut déjà s'asseoir avec lui puis commencer à lui poser certaines questions sur ses relations, sur ce qui est pratique?
Je pense que ça dépend de chaque parent et de chaque enfant aussi, puis de chaque relation qu'il y a. Parce que je sais que plusieurs parents m'ont dit « Hey, je suis pas à l'aise. Fait que là, je vais prendre ton livre, je vais le mettre sur la table à café, puis ils partiront avec, là, puis ils viendront me reposer des questions si jamais. » Puis il y a eu l'autre cas de figure qui était hey, « moi, je vais commencer à l'aborder, ce sujet-là, puis j'ai envie. » Puis il y en a d'autres qui l'abordent depuis le début, puis il y en a d'autres qui me disent « je serai jamais à l'aise. » Fait que j'ai besoin d'outils comme ça pour leur laisser, puis ils vivront leurs affaires. Il y a comme pas de mode d'emploi, vraiment. Moi, personnellement, je prône d'en parler le plus tôt possible, mais ça, je prône ça pour tout le monde, pour qu'on arrête d'être mal à l'aise de parler de sexualité, parce qu'on peu importe l'âge, il y a toujours un malaise qui vient avec ça. Mais ça vient aussi avec des problématiques. Par exemple, si on ne parle pas de menstruation, ben, on ne parlera jamais de précarité menstruelle. Puis c'est des choses qui sont vraiment importantes. Donc, je pense que ça dépend de chaque famille, chaque enfant. Il faut trouver son air d'aller. Si un parent est super malaise, ça ne se passe pas bien, ben, l'enfant peut peut-être faire « ish, ça me tente comme pas vraiment ». Fait qu'il faut voir avec quoi on est à l'aise, en fait.
D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions à Myriam, qui est avec nous, étudiante en sexologie, pour parler du livre « Tout nu », savoir comment ça se passe, vous, à la maison. 514-790-9850. Est-ce que vous avez encore une petite gêne à parler d'éducation à la sexualité avec vos jeunes? Peut-être que vous avez déjà eu la discussion. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé. 514-790-9850. Et pour nous joindre, c'est toujours le même numéro, le 514-790-9850. Vous pouvez le faire également par courriel. Hein? Aucune question n'est pas bonne. Vraiment, vous pouvez aller sur le site du 98.5 pour nous écrire. Ça va nous faire plaisir de pouvoir lire vos questions avec Myriam Dagouzan-Bernier, qui est auteure du livre « Tout nu, étudiante en sexologie ». On a un appel de Benjamin. Bonjour.
Bonjour Catherine. Bonjour Myriam.
Bonjour.
D'abord, j'aimerais féliciter Myriam là, pour ce qu'elle fait, parce que moi, je m'appelle Benjamin, je viens de Tahiti, Polynésie française. Ça fait 10 ans que je suis au Québec, et on avait été très, très choqués par le côté puritanisme du Québec, parce que nous, on est dans une île où il fait chaud toute l'année, où les femmes bronzent les seins nus sur les plages, Et il n'y a pas un enfant qui est là en train de fixer les seins de leur maman ou de la maman du petit copain, parce que ça fait partie de notre culture. Ouais. Et du coup, le puritanisme, je pense que c'est l'ennemi numéro un d'une société. Mmh. Hein, à côté de ça, moi, je sais que j'avais été énormément choqué lorsqu'une maman qui donnait le sein à son bébé dans un magasin sur Sainte-Catherine, la personne avait appelé la police pour la faire sortir de là pour attentat à la pudeur, alors que le sein, c'est pas que du sexe, c'est aussi synonyme de l'évolution. C'est comme ça qu'on a existé, l'humanité. Donc, ce côté puritain est vraiment terrible. Merci beaucoup, Myriam, de faire ça pour nos jeunes. Pour exemple, moi, j'ai deux garçons de 23 et 24 ans.
Et ça s'est passé comment, Benjamin?
La sexualité a toujours fait partie de nos discussions. À 7-8 ans, quand ils commençaient à en parler, effectivement, comme disait Myriam, tu as le droit de te toucher, mais si tu peux faire ça discrètement dans ta chambre, c'est plus cool. Hein, et puis, ils ont grandi, puis à l'âge de 12-13 ans, il se passait des choses, l'arrivée des poils, la transformation de leur sexe, et puis l'attirance envers des personnes du même ou du sexe opposé. Et tout ça, ça a toujours été dans une grande ouverture, et je ne vais pas vous prendre trop d'antenne, mais je voulais vous dire qu'on a vécu avec mon épouse le polyamour. Au bout de 5 ans de mariage, on est tombés amoureux tous les deux d'une jeune femme magnifique, adorable, avec qui ça s'est très bien passé pendant un an et demi. Pour les enfants, c'était Tati Joanne, d'accord? Donc, c'est clair qu'on ne dévoilait pas la partie sexuelle des choses, mais elle faisait partie de notre foyer. Mmh. On a dû se séparer pour des raisons professionnelles et quitter le pays. Mais je peux vous dire qu'on va à Las Vegas dimanche pour fêter nos 25 ans de mariage. Donc, bravo. Pour tous les gens qui disent que le polyamour, ça n'existe pas, c'est impossible, on n'est pas capable, ça va détruire le couple, etc., c'est de la bêtise. Si les choses sont bien faites et qu'on communique, il faut communiquer, exact, tout simplement, avec nos enfants, avec tout ce qu'on a autour de nous. S'il y a de la communication, les choses peuvent se faire. On peut tout dire.
Et par respect aussi, Benjamin, tout à fait.
Oui. Myriam, l'amour et le respect. Oui. Bien sûr, je me remarie une deuxième fois, moi, avec la même femme.
C'est magnifique.
Ans, parce que voilà, c'était le bonheur, 25 ans de bonheur, de partage, d'amour et d'expérience.
Merci, c'est vraiment un super beau témoignage. Ça me touche vraiment beaucoup. Puis je trouve ça beau que vous disiez ça parce qu'on voit qu'il y a plein de configurations possibles. C'est ça qu'il faut retenir en fait. Puis on n'a pas à juger de ça. Puis ça se passe très bien. Benjamin est un super exemple avec sa famille et tout. Il l'a dit, il faut communiquer. C'est le plus important. Tous les sujets peuvent être abordés si c'est bien fait, avec intelligence, avec humour même des fois pour faire passer les choses. Mais oui, merci Benjamin, c'était vraiment.
Merci beaucoup Benjamin, félicitations. Encore une fois, pour vos 25 ans de mariage. Non, mais maintenant, 25 ans en 2019.
Oui, c'est quelque chose.
Bravo. Non, bravo, avec deux enfants. Oui. Question de Eric. Bonjour, il n'y a pas de doute que mon plus jeune de 7 ans s'intéresse aux filles. Par contre, mon plus vieux de 9 ans, c'est plus ambigu. À quel âge que l'enfant sait son orientation sexuelle et comment aborder le sujet sans le catégoriser?
Là, c'est sûr que je tiens à spécifier, je donne une réponse en tant qu'autrice non sexologue. Je ne suis pas sexologue encore.
Étudiante
en sexologie, exactement, à l'UQAM. En fait, je pense qu'il faut y aller avec le jeune. Il faut y aller, il faut voir, il faut ouvrir le sujet si le jeune sent qu'il est à l'aise de pouvoir en parler. Il n'y a pas d'âge précis, je pense, pour se dévoiler parce qu'en plus, l'identité, l'orientation sexuelle, elle est fluide toute la vie. Donc, ça se peut qu'on passe toute sa vie avec un homme, puis qu'après 25 ans, comme Benjamin, on passe, mettons, avec une femme après, ou peu importe, on peut être attiré par des gens non-binaires, on peut être pansexuel. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop mettre le focus ou mettre une culpabilité, justement, comme il en parlait Eric, sur l'enfant. Je pense que ça va se faire tout seul, mais ne serait-ce que d'ouvrir le sujet, puis de dire, tu sais, ça se peut. Toutes les orientations sexuelles sont vraiment larges, possibles. Donc, tu peux nous en parler si tu veux, on va être là pour écouter ce que tu as à dire là-dessus.
D'avoir une discussion aussi entre parents, en sachant très bien que l'enfant entend t'es mon ami.
C'est ça. Peut-être lui donner des exemples d'autres configurations de couple qui existent, puis dire voilà, tu vois, deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, trois personnes ensemble, peu importe. Les configurations sont vraiment éclatées maintenant. Fait que juste l'appuyer, puis l'écouter si l'enfant a besoin de parler.
Merci, Éric, d'ailleurs, de votre courriel. Je pense que ça va aider également plein de parents. Moi, j'ai le livre en main, tout nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité. Puis, il y a plein de mots, comme je le disais tantôt, que je comprenais pas, que je savais pas. Puis là, je me dis, non, c'est tout moi qui ai rendu trop vieille, ça y est. J'ai pas le choix. Faut que je rajeunisse un petit peu. Alors, on va y aller avec quelques mots, OK? Alors, alexithymie.
Oui, ça, c'est le mot qui m'a été demandé le plus souvent. C'est en fait la difficulté à exprimer ses émotions. Donc, tout reste en dedans. Il y a énormément de gens qui sont comme ça. C'est juste que le mot n'est pas si souvent utilisé, mais c'est vraiment toutes les émotions restent en dedans. On a de la misère à dire ce qu'on ressent, nos émotions. Donc, c'est vraiment ça, l'alexithymie.
Ça, c'est pas être juste réservé, gêné?
Pas nécessairement. Non? Il y en a vraiment que c'est une situation où tout devient vraiment tout serré à l'intérieur, puis ça cause des problématiques au niveau social, par exemple, difficulté à s'exprimer, difficulté à dire ce dont on a besoin, etc., etc.
Autre mot maintenant, cisgenre.
Oui, on en parle beaucoup parce qu'il y a cisgenre, transgenre. Moi, en exemple, je suis une femme cisgenre, c'est-à-dire que je suis née femme, j'ai un sexe féminin et je me reconnais là-dedans. Donc, je suis une femme cisgenre. Et quand on est une personne trans, par exemple, c'est qu'on est, par exemple, femme, mais on se sent homme. Puis, il y en a d'autres personnes aussi qui vont se sentir ni homme ni femme, par exemple. Mais cisgenre, c'est vraiment, on est avec un sexe féminin et on se sent femme. On est avec un sexe masculin et on se sent homme. Par exemple.
OK, donc moi, je suis une cisgenre aussi. Je peux dire, ça. Catherine, je suis une cisgenre. Voilà, mais écoute, donc, je le saurais. maintenant, dans la catégorie D, danse sandwich.
Oui, c'est une expression qui est beaucoup utilisée pour étudier, en fait, les jeunes. Ils appellent ça des activités sociales sexualisées. C'est que dans les parties, mettons, de polyvalente, des choses comme ça. Polyvalente, je trouve que ça sonne vraiment les 80, mais bon, vous comprenez le concept. Les danses se font, c'est une personne qui va commencer à danser. Une première personne s'agrippe à elle, l'autre s'installe en arrière et la prend en sandwich. Et c'est des choses qui arrivent vraiment souvent dans ce genre de danse-là.
Ah oui?
On peut aimer ça ou ne pas aimer ça. Mais ils appellent ça une activité sociale sexualisée qui arrive très fréquemment dans les parties aussi.
À quel âge ça commence, la danse sandwich?
Je pense que ça peut commencer assez tôt, 10, 11, 12 ans. Oui, tout à fait.
Faudrait voir le visage de notre réalisateur Sébastien qui doit penser à ses enfants. À quel âge? Okay, je pense que je ne les enverrai pas dans un party. Je vais les surveiller. Il n'y a pas de danse sandwich.
Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça nécessairement, mais il y a plusieurs jeunes qui font ça.
La bispiritualité.
Oui, bispiritualité, c'est un concept un peu complexe, en fait, là, mais c'est au niveau des personnes autochtones. C'est, ils considèrent, en fait, là, je veux vraiment pas me tromper avec les informations, mais on considère, en fait, que c'est un peu, on a l'esprit féminin et masculin à la fois en dedans de soi. C'était considéré aussi, il y a une conception chez les Premières Nations qui intègre aussi un troisième genre, en fait, qui n'est ni féminin ni masculin. Donc, la bispiritualité, il y a le seul là-dedans. Et là, je résume vraiment très brièvement.
C'est le two-spirit
exactement, c'est
anglais,
le two-spirit. Exactement, oui, voilà.
Et un autre mot, tiens, demi-sexualité. C'est quoi, t'es à demi-sexuelle?
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on a besoin d'un lien affectif pour vouloir avoir de la sexualité avec la personne. Ah. Donc, on ne pourra pas faire un one-night stand, par exemple, parce que à moins qu'en une soirée, il y a un lien affectif important qui se crée, mais habituellement, ce n'est pas exactement ça. Mais donc, un lien affectif très fort qui fait, cette personne m'attire, j'ai envie, je ressens quelque chose pour elle, puis je ne parle pas nécessairement d'amour. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Ça peut être de l'estime ou quoi que ce soit. Puis on a envie d'avoir une sexualité avec cette personne-là.
C'est un mot qu'on a beaucoup entendu parler. Consentement, ça, c'est important pour les ados aussi.
Vraiment,
est-ce qu'ils en prennent conscience de plus en plus de consentement,
oui.
Dire oui, je désire, je le veux?
Je pense que oui.
Avec le mouvement, moi aussi.
C'est ça, le mouvement, moi aussi, MeToo, etc., je pense qu'il y a une prise de conscience généralisée, en fait, à ce niveau-là. Et beaucoup de jeunes, maintenant, se posent la question par rapport à ça. Mais le consentement, je pense que c'est pas juste pour les jeunes, c'est vraiment pour tout le monde. Puis on parle de consentement sexuel, mais de façon générale, c'est de savoir dire quelles sont ses limites. Plus on va parler de consentement, j'ai l'impression, ultimement, que moins il y aura de problématiques d'agression sexuelle, de harcèlement ou des choses comme ça, parce qu'on va comprendre qu'il y a des limites aussi, puis on va être capable de dire non, ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc, je pense que c'est vraiment important, le consentement.
Oui, puis il faut continuer à en parler encore et encore.
Encore et encore.
Et ne pas se gêner également de parler de sexualité. Avec ce livre, je rappelle, c'est tout nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité. Puis j'aurais pu continuer, il y avait digue dentaire, je vous dis.
On peut en faire avec des condoms. C'est un petit carré, en fait, de latex qu'on met quand on fait un cunnilingus ou un anulingus.
Ben écoute, on le saura. On va se coucher moins niaiseux à soir, comme on dit. Myriam Dagouzan-Bernier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dan Bigras-Amen, salut Dan.
Ça va bien, vous étiez dans les termes en romain, en latin.
Oui, tout à fait. Voilà. J'en ai plein, je suis prête de passer le livre par la suite pour
c'est
en parler avec ton
certainement.
Gars. Et on revient sur une histoire, évidemment. J'en ai parlé hier de violence conjugale également, suite à cette entrevue avec Sophie, victime de violence conjugale. Donc, on revient sur le dossier. En fait, on suit là, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures.
Alors, j'ai eu une entrevue. J'avais parlé de violence conjugale. Sophie, non fictif, on s'entend pour la protéger.
La voix trafiquée.
A téléphoné ici. Elle a dit qu'elle était contente de ce qu'elle avait entendu, puis elle aimerait me parler. Fait que bon, j'étais content, on va pouvoir en discuter avec une victime. On a changé sa voix. Et puis, j'ai promis qu'on essaie, dans la mesure de nos moyens, de faire un petit suivi avec ça. On en a parlé avec Mme Modestès, qui s'occupe des regroupements pour les femmes battues. Et puis, j'ai dit qu'on ferait sortir Mme Sonia Lebel, ministre de la Justice, de sa retraite, où elle est en vacances. Elle a le droit de prendre des vacances, mais ministre, fait qu'elle a un petit peu moins le droit que tout le monde. On l'a fait sortir, on y a parlé dans le bois, les ondes sont moyennes, mais elle nous a fait avancer.
Bien, tant mieux. Puis, il faut continuer à en parler, ça aussi, c'est important.
Tout le temps, c'est en progression.
Tout à fait. Dan Bigrand, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On t'écoute, bien sûr, à midi. Les informations de Cogeco Nouvelles s'en viennent. Et au retour, encore plein de beaux sujets. Notamment, on va rentrer dans l'univers que je trouve particulièrement fascinant des drag queens. Restez avec nous.